dans la Genèse, le chapitre 37, le verset 20 à 28. Alors, quelqu'un peut prendre... C'est Pascaline qui va prendre le... Comme ça. Voilà, donc je répète, Genèse, tout au début, dans l'Ancien Testament, le chapitre 37, le verset 20 à 28. N'oubliez pas, là, donc j'ai intitulé ma prédication « Libérer de la prison pour gouverner » ou « Libérer de la prison pour régner ».
Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce la dévorait, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le livrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte.
Merci. Bon. J'ai pris juste un extrait de toute une histoire concernant Joseph, d'accord ? Joseph, c'est une belle histoire. Comme ça, ça va vous encourager à lire chez vous le contexte avant et après. C'est une belle histoire. On parle de Joseph. Joseph était jeune. Il était un jeune qui avait la communion avec Dieu, qui aimait Dieu. Et Dieu lui parlait, il avait des visions en ce qui concerne l'avenir, sa famille. Et donc la Bible nous dit, l'histoire nous dit que finalement son père, il l'aimait beaucoup parce qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel en lui. Et les autres frères étaient jaloux. Ils étaient jaloux du fait que Joseph était aimé par son père et il parlait des visions, il était bien habillé. Et vous avez compris ce qui s'est passé là. On a lu juste cet extrait-là, ce qui s'est passé. Parce qu'il était bien habillé, parce qu'il était aimé par son père, parce qu'il avait donc des visions de la part de Dieu prophétiques, eh ben voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est retrouvé dans une citerne. La jalousie, la méchanceté, c'est ses frères qui l'ont pris et ils voulaient vraiment tuer, lui enlever la vie. Et donc, vous avez suivi, Joseph se retrouve dans cette citerne. Il pouvait mourir, la mort était devant lui, et il attendait, il ne savait pas ce qui va se passer avec lui. Et tout à coup, vous avez compris, il y avait quelqu'un, Judas, qui dit, bon, on va quand même pas le tuer, donc il voulait les libérer, il y avait le combat dans la famille, ça se comprend, hein, ça se comprend. Et pendant ce temps-là, voilà, il y avait des marchands qui passaient. Et puis on a décidé quoi ? Le vendre. Le vendre. Et on a vendu Joseph à ses marchands et avec eux, il s'est retrouvé donc en Égypte. Mais ce qui était essentiel dans tout ça, c'est que même dans la citerne, Dieu était là, Dieu était présent, Dieu était là avec Joseph. On va comprendre plus tard, pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette histoire. Dieu était là. Même dans la citerne, ben Dieu était présent avec Joseph. Et donc, il était ensuite, tout ça, c'est Dieu qui contrôlait. Vous n'allez pas les tuer, très bien, vous allez le vendre, c'est bon. On va les déposer en Égypte parce que vous avez, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez, il y a toute une histoire, toute une vie en Égypte. Il fallait protéger l'Égypte et Joseph était prévu par Dieu. On ne savait pas tout ça. Il n'y avait pas d'agenda. Personne ne connaissait, savait ce qui va se passer avec Joseph et puis ensuite en Égypte. Voilà. Et donc, Joseph, finalement, se retrouve en prison, en Égypte. Pourquoi ? Une fois de plus, par la jalousie et puis d'autres circonstances, Joseph emprisonné. Mais n'oubliez pas que, à nouveau, Joseph, là-bas c'était la citerne, ici la prison, mais Dieu était là avec Joseph. Dieu était présent. Amen. Dieu était avec lui. Joseph était béni. Dieu lui parlait. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? C'est que Dieu a libéré Joseph d'une façon extraordinaire de la prison. Alors, Genèse 44, je prends juste quelques extraits parce que c'est une histoire très longue, donc ça va vous encourager, à ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire, à lire, je jeûne. Donc, Genèse 44, le verset, Genèse 41, le verset 40 à 44.
Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. »
Merci. C'est formidable. Joseph, dans les citernes, Dieu était là, il était libéré. Il se trouve en prison en Égypte. Et puis Dieu était là aussi. Et en plus, Joseph a été élevé par Dieu, honoré par Dieu. Sa foi a été honorée, son cœur honnête devant Dieu a été honoré. Sa foi a été honorée. Et puis vous avez compris pourquoi ? Parce que l'histoire nous dit, enfin le contexte nous dit que Pharaon avait des rêves. Et bien, il n'y avait personne pour traduire, pour expliquer ce que ça voulait dire. Et puis Joseph, il arrive là et il dit, voilà, c'est clair, pendant 7 ans, il y aura l'abondance. Ça va pousser partout. Il y aura beaucoup à manger, et même plus que d'habitude. Donc, pendant 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emmagasiner. Il faut protéger, il faut stocker, parce que 7 ans après, il y aura quoi? La famine. On n'aura rien du tout. Ah voilà, alors si on gère bien, si on prépare bien, c'est dans un pays, hein, si tout se passe bien, Ben voilà, nous allons pouvoir faire face à cette famine. D'accord ? Mais il nous faut quelqu'un pour gérer ça, pour préparer, pour diriger tous ces travaux-là. Et puis voilà, le fait que Dieu a été avec Joseph, il y avait l'Esprit de Dieu sur lui, il y a reçu un esprit de révélation, un esprit prophétique, et il a dit au roi, ben voilà, ça veut dire ça, il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse gérer, diriger, conduire ses travaux pendant sept ans. Et puis le roi, il dit, ben c'est toi. Bon, je passe les détails. Allô? Le roi dit, ben Joseph, c'est toi. Quelqu'un qui est dans une citerne, on voulait le tuer. Quelqu'un qui se retrouve en prison, rejeté de la famille, rejeté par ses frères. C'est cet homme-là, ce jeune homme-là qui avait, je pense, une trentaine d'années. C'est ça, 30 ans. Voilà, c'est lui qui se retrouve devant un roi, un jeune homme, retiré de la citerne, de la prison, et c'est lui qui se présente, c'est lui qui était donc invité à se présenter devant le roi d'Égypte. Et celui qui était la solution pour Pharaon, pour le roi, c'est lui qui apporte la solution, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui explique ce qu'il devait faire donc, pendant les 7 ans, pendant 14 ans. C'est remarquable, hein? Alors, un jeune homme de 30 ans. Voilà, et Joseph est devenu quoi? Le premier ministre. On est d'accord ou non? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, et ceux qui non, ben vous allez lire. Il est devenu, il est nommé, hein, on va utiliser les expressions de maintenant, le roi a nommé Joseph en tant que premier ministre. C'est fort, non? Là, on voit Dieu. Je répète, on voulait le tuer, il était dans la citerne, il était vendu, il était prisonnier, il était en prison. Mais il restait dans la paix, il s'attendait à Dieu. Et voici, le roi d'Égypte nomme Joseph, un jeune homme de 30 ans, c'est jeune, hein? Le premier ministre, et Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, et puis voilà, il a mis toute une structure logistique, d'organisation, etc., pour en action, en place, pour que ça puisse marcher. Et pour que 7 ans après, il fallait être visionnaire, hein, et il fallait être prophétique, et en même temps, il fallait croire l'abondance et puis ensuite la famine. Ah ben, il fallait croire. Hein? Allô? On entend tellement de choses, de mensonges. Aujourd'hui, on nous promet des choses et ça ne s'accomplit pas souvent. Hein? Il y en a qui ont déjà même prononcé que Jésus devait venir nous chercher. Il y avait des dates et puis il n'y a rien qui s'est passé. Vous comprenez? Et là, voilà, c'était précis, c'était net, c'était clair. Dieu lui a parlé. Et donc, Joseph, je répète, il était nommé le premier ministre. Le premier ministre. Ah, Joseph, je suis fier de toi. Tu avais 30 ans et tu es devenu le premier ministre d'un pays, Égypte. Égypte, à cette époque-là, était un pays comme aujourd'hui, on parle de ici en Europe, d'Angleterre ou de, d'Allemagne ou la France, les pays, voilà, les pays qui quelque chose à dire. Et l'Égypte, elle était voilà, un pays connu qui avait l'autorité, la puissance. Et le Joseph, jeune homme de 30 ans, est devenu le premier ministre et ça marchait. Bon, après, il y a d'autres choses prophétiques. Il y a la famille qui... Comment Dieu voyait plus loin, comment Dieu voyait plus loin. Les frères qui l'ont jeté dans la citerne, vendu, c'est eux qui sont venus vers Joseph, enfin vers la structure de, d'Égypte, pour demander à manger. Parce que la famine a touché aussi le territoire, la région là où ils habitaient. C'est formidable ça. Comment Dieu est créateur, comment Dieu est puissant, comment Dieu est prophétique. Et lui se sert de l'homme, des hommes, pour accomplir les choses extraordinaires qui sont devant nous. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Pendant 40 ans, Christian et moi, combien de galères qu'on a eues. Mais on n'a jamais gardé, on s'est jamais arrêté sur des galères, quand je dis galères, des difficultés, des combats, des épreuves, on ne s'est jamais arrêté là-dessus parce qu'on aimait bien quand quelque chose qui se passait que nous n'avons pas programmé, quelque chose qui s'est passé que nous, on ne pensait même pas, quelque chose qui se passait qui nous dépassait, quelque chose qui se passait, voilà, que nous n'avons pu faire. Quand on a vu des couples restaurés, quand on a accepté chez nous à la maison des gens qui étaient en instance divorce, et puis Dieu a fait les miracles, quand on a vu nos enfants qui ont fait quelques bêtises, on a vu Satan qui regardait par la fenêtre et il dit « Bon, j'attends encore une semaine et puis là, je l'aurai. Je viendrai pour arracher un enfant, au moins un enfant. Je vais ici arracher au moins un enfant. » Et il n'a pas réussi, même s'ils ont fait quelques bêtises, parce qu'après, ils nous racontent, hein, vous savez, ils sont honnêtes. Et pour se libérer, bah, tout le monde est venu pour nous dire, tu sais, bon, ah bon, ah, pff, oh là là. Vous comprenez? Mais toutes ces choses-là, c'est ça qui nous a toujours encouragés. Quand je termine ma réunion à Rotterdam et voilà, on m'a pas donné beaucoup de temps parce qu'ils avaient beaucoup de choses. Il fallait que j'aille assez vite. Je n'étais pas content de moi-même. Et je me suis dit, bon, voilà, je n'étais pas très content de moi-même. Voilà, j'ai dû raccourcir, etc. Et après, je vois quelqu'un qui vient. Je vois quelqu'un qui s'approche vers moi. Il me dit deux mots. Il m'a dit... Ce matin, c'est un rendez-vous divin pour moi. Et les paroles que tu as dites ont transformé ma vie. Et puis plus tard, on va se voir, on va se rencontrer. Oui, c'est bon. Alors ça, c'est ma joie. On n'a pas programmé ça. Ce n'était pas noté dans mon agenda. Dans mon agenda, c'était la date, telle et telle date, la prédication à Rotterdam. Je n'ai pas noté d'autre chose parce que je me suis dit, ah ben Dieu va agir. Dieu va agir. Lorsque nous avons prié, encore Christian n'a là, même pas prié, je l'ai protégé. On était au Skype et on a réclamé une bénédiction de Dieu pour quelqu'un, pour la jeune couple. Ne cherchez pas à savoir qui c'est, vous ne connaissez pas. Et elle-même, elle s'est dit, ça va être dur. Et moi, j'ai dit, Seigneur, tu vois, donne-moi les paroles. Dis-moi ce que je vais dire. Je ne suis pas prêt, c'était il n'y a pas longtemps, à combattre. Je ne suis pas encore là, je ne vous cache pas. Hein. Je ne vais pas faire maintenant la délivrance, ce n'est pas encore le moment. Ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, j'ai pris un peu moins fort, je ne peux pas encore sauter là, comme j'aimerais bien sauter là comme avant, puis ce n'est pas encore le moment, mais ça vient, ça vient. Je peux déjà faire ça, j'ai pas mal là, donc c'est bon. Vous voyez, il y a des choses qui avancent. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas réglé aux 5 minutes, moi j'arrête. Et quelque chose très grave, très grave. Et Christiane, elle était juste à côté de moi. Et moi, j'ai juste prononcé quelque part. Et comme le jeune disait ici, on a pris des engagements devant les autres. On s'est engagé. On a des faiblesses, on a un péché, on veut être libéré. Et si on a quelqu'un à qui on peut se confier, ça nous aide. Je passe par là. Quelquefois, il y a des moments où on a besoin d'un ami à qui on peut tout dire. Et puis voilà, l'engagement, c'était oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Et puis là, on reçoit tous les quelques jours une réponse, enfin, une information pour nous dire ça marche, nous avons la victoire. Ah, moi, je suis tellement content. Un peu plus tard, ça marche, nous avons la victoire, parce qu'on s'est mis d'accord. Voilà, on s'est mis d'accord, on reste en contact. Et vous allez me dire si vous avez la victoire. Donc, vous comprenez, quand Dieu fait les choses qui ne sont pas même dans nos agendas, quand on parle ici au niveau de Madagascar, on va vous expliquer dimanche prochain avant, un petit peu plus. Mais bon, ça vient comme ça. J'aimerais vous dire que Dieu est tellement grand, tellement puissant. Et Dieu est... Moi, je ne suis pas contre l'agenda, je suis pas contre... J'en ai toutes les grandes lignes. Mais j'ai toujours dit, Seigneur, j'ai dompté, j'ai marqué, mais toi, tu... C'est toi qui dirige, c'est toi qui as le dernier mot. Amen. Et donc, voilà, j'étais à la maison... J'étais à la maison après les opérations, tout ça, fatigué. Et je reçois un pasteur, des pasteurs malgaches, ils viennent à la maison. Et Dieu nous parle. J'ai réprogrammé. Je n'étais pas très content. C'était juste quelques jours après l'opération. Mais bon, c'était des gens qui sont venus de très loin. Oui, d'accord, passez un petit moment. Et voilà, il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui se passe. Et tout de suite, on envoie 4 personnes. Et ça fait déjà depuis des années, on parlait d'un travail missionnaire, faire un travail missionnaire, donner peut-être dîme de la dîme pour l'œuvre de Dieu. Et ça durait 10 ans parce que, ben voilà, c'était pas le moment. Et tout à coup, voilà, on arrive là, j'ai rien à dire. Je suis dépassé par ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que j'accepte ou est-ce que je ferme la porte? Ou est-ce que j'appelle la malédiction sur moi? Ou est-ce que je libère la bénédiction? Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est grand, il est tellement puissant. Il est remarquable. Alors, Joseph est passé par des moments difficiles, mais Dieu était avec lui. Mais nous, la même chose, nous passons par des moments difficiles, mais notre joie, c'est les victoires, c'est les changements, c'est les miracles, c'est les vies changées. C'est les enfants quand ils se donnent à Dieu. Quand je vois, j'écoute Marine, la première petite fille de la famille. C'est ça, c'est la première. Attends. Ouais, c'est ça. Elle a 16 ans. Elle me dit, pape, je vais prendre mon baptême. Alors moi, je suis enchanté. Elle aurait pu me dire, ben, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'étais révolté à son âge. J'ai fait beaucoup de misère à mes parents. Et puis elle m'annonce à moi, son grand-père. Bon, je suis déjà grand-père, ça ne vous choque pas, non? C'est la vie, hein, c'est comme ça. Tout le monde passe là-bas. Ma femme, elle dort maintenant avec un grand-père, bah, tant pis pour elle. Comme ça. Elle me dit, voilà, je vais prendre mon bac. Ah ben, vous comprenez, c'est toutes ces choses-là qui nous donnent la force, l'énergie pour aller plus loin. Parce que Dieu est avec nous. Oui, il y a eu ça. Oui, il y a eu l'opération. Oui, on m'a coupé. Oui, on a coupé Christiane. On a nous a charcuté. Mais on est là. Il y a tellement de bonnes choses autour de ça. Amen. Oh, Dieu est puissant. D'accord. Donc, je vous ai parlé de Joseph. Et le temps passe tellement vite. On va prendre juste un texte dans la Bible d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens 2, verset le 1er jusqu'à 6.
Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Alors, vous avez entendu ? Vous connaissez ça ? Moi bien ou bien, peu importe. Mais voilà, lisons ces paroles. Nous étions morts. On était tous dans le trou, dans la citerne. Nous étions tous emprisonnés par les péchés, par les iniquités, par les liens. Amen. Par la religion aussi. Il y a aussi la religion évangélique, je ne vous cache pas. Hein. J'en ai vu. Hein. Ce n'est pas la religion qui sauve. Et vous avez entendu, par grâce, nous sommes sauvés par qui ? Par la grâce, en Jésus-Christ. Mort ! Nous étions morts et lui nous a rendus à la vie. Nous étions morts et nous a rendus à la vie. Tu te rends compte, tu étais mort, moi aussi, hein? Peut-être plus que toi. Ah, j'étais pas gentil, moi, quand j'étais gamin. Et regardez, c'est formidable. J'étais mort. Et il m'a rendu à la vie. Si on parle de la mort, on parle aussi s'il y a la mort et la vie. Donc on parle aussi de la résurrection. D'accord ? Le fait que nous sommes vivants et on était morts, c'est parce que nous sommes ressuscités. C'est une résurrection spirituelle. Alors quand on voit ça, ah, c'est formidable, parce que nous voyons l'éternité devant nous. La joie, même si tu es jeune, j'étais jeune comme toi. Regardez comment les années passent vite. Et puis voilà, nous avons une sécurité, une assurance, la certitude que peu importe ce qui se passe sur cette terre, eh ben, nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ. Avec les hommes de Dieu qui étaient avant nous, avec les apôtres, nous allons les retrouver. Et ça, c'est merveilleux. J'y répète, nous étions morts et nous allons dû à la vie. Il nous a ressuscités et ensuite rendus à la vie. Donc, il n'y a plus de citerne pour toi ni pour moi. Il n'y a plus de prison pour toi et pour moi, parce qu'il nous a fait sortir de la citerne et nous a libérés de la prison. Nous étions prisonniers, j'y répète, de la mort, du péché. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous sommes heureux. Formidable, ça. Ah. Et ensuite, le dernier... La dernière référence, 1er épître de Pierre, chapitre 2, le verset 9.
Élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. »
C'est fort, hein? Tu peux répéter encore? Hein, distinctement, doucement, puis digérer.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
C'est formidable ça, hein? Alors vous avez un texte là, quand vous rentrez dans cette porte, vous vous souvenez un texte là, juste derrière la porte là, sur le mur, quand vous venez, rentrez dans la salle, il y a un texte biblique. Et puis venez, regardez comment Dieu est grand, hein, vous vous souvenez? Et quand Chris Botter était là pour la plateforme, il a observé tout ça parce qu'il est venu dans cette salle, quand cette salle était un hangar à l'époque. Et après, on ne s'est pas vu pendant des années. Et tout à coup, les amis se retrouvent. Et voilà, il regardait tout ça. Puis il dit, mais là, tu vas écrire, aller et prêcher la bonne nouvelle. Quand on vient de là-bas, venez et voyez comment Dieu est grand. Mais quand on part, aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bon, il a dit en anglais, donc on m'a traduit, donc c'était pas tout à fait ces mots-là. Mais... voilà, entrer dans les champs de là. Il parlait de la médecine. Vous voyez ce que. Et là, pour que vous puissiez communiquer, partager, raconter les choses que Dieu a fait pour vous. Donc, ce texte-là nous dit que nous sommes appelés finalement, d'accord, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui nous a élus, hein, ça va? Vous avez compris? Donc nous sommes appelés, il nous a appelés pour devenir un sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Donc ça veut dire quoi? Sacerdoce royal, j'ai regardé plusieurs traductions sur Internet, etc., pour me donner vraiment une idée plus claire comment on peut s'exprimer aujourd'hui. Donc, il nous a appelés pour servir, d'accord? Servir. Nous sommes appelés pour servir les seigneurs. Ou sacerdoce, on peut aussi dire, on peut aussi expliquer, pour nous, aujourd'hui, c'est un service ou un ministère. Le ministère, exercer le ministère royal. Nous exerçons donc le ministère au service, nous exerçons le ministère au service sous l'autorité de notre roi qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes invités, appelés pour devenir un sacerdoce royal, c'est-à-dire un serviteur ou un ministère pour exercer ce ministère sous l'autorité de Jésus-Christ, c'est-à-dire le ministère royal, le service royal. Il y a la royauté, il y a l'autorité. Ce que Dieu te demande de faire dans cette mission, il y a une force, il y a une puissance et il y a l'autorité. Si tu es fidèle comme Joseph. Amen. Ah. La citerne, ce n'est pas un problème. La prison, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais quelquefois, il nous laisse passer par la citerne, sans un peu ce que c'est, pour, quelque part, tester notre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Tester notre foi. Il veut voir que si tu es vraiment mordant, si tu es déterminé, si tu es décidé, si tu as enlevé tes pantoufles pour aller travailler, tu as mis des bonnes chaussures. Alors? Voilà, donc il nous teste. La prison, voilà, nous sommes libérés de la prison, mais il y a des épreuves. Dieu teste ma foi. Dieu teste, vérifie si je suis vraiment fidèle vis-à-vis de lui, même dans mes difficultés. Quel privilège, d'avoir ce sacrifice, sacerdoce royal, le service royal. Quel privilège. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons travailler avec Dieu. Souvent, voilà, il y a eu des enseignements déjà aussi longtemps, travailler pour Dieu. Donne du temps, donne de l'argent pour Dieu. Et puis Paul lui-même, il dit, Jésus lui-même dit que lui travaillait et confirmait sa parole par les signes et les prodiges parmi les apôtres. Paul dit, quelqu'un, certains parmi vous, vous semez, vous ensemencez, d'accord, plantez. Quelqu'un d'autre, pour que ça puisse pousser, arrose. Si on n'arrose pas, ça ne va pas pousser. On est bien d'accord? Et aussi, merci. Et si on arrose là où on n'a pas poussé, on n'a pas semé, rien à pousser. Il n'y aura que de l'eau. Mais troisièmement, la croissance appartient à qui? C'est Dieu qui fait croître. Tu sèmes, tu arroses, mais c'est Dieu qui fait la croissance. C'est-à-dire, c'est une collaboration. Dieu travaille avec nous. Et puis, j'aimerais vous encourager vraiment le fait que nous sommes tirés de la prison pour gouverner, pour régner, gouverner sur le monde, sur les péchés, sur Satan. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs fois déjà dans ma vie de combattre. Quelquefois, ça a duré. Et il y avait des moments où j'ai juste dit, au nom de Jésus, tu dégages. Tu dégages. Au nom de Jésus, arrière de moi. Et il part facilement. Amen. Donc voilà, nous sommes tirés de la prison, de la citerne, de la mort éternelle. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce royal. Nous pouvons servir Dieu ou exercer le ministère royal. Voilà, pour terminer, j'aimerais vraiment vous encourager à avoir la foi en Dieu. Il y avait aussi un mot prononcé pendant ce culte, valoriser, donner la valeur à Dieu, donner la valeur à cette action que Dieu a accomplie dans ma vie. Vous comprenez? Apporter une reconnaissance. Mais quoi? J'étais perdu? J'étais condamné à l'éternité, à l'enfer, quoi? Tu m'as sauvé? Tu m'as libéré? Tu m'as fait sortir de la prison? Aujourd'hui, je suis libre. Ben voilà. Je vous encourage d'être reconnaissant à votre Dieu. Et puis ensuite, le fait que toi et moi, nous sommes aujourd'hui un sacerdoce royal, agissons, travaillons, soyons prophétiques, soyons visionnaires. Moi, j'aime ça. Parce que souvent, nous avons découvert quelque chose que je n'ai pas programmé, quelque chose où je ne pensais même pas, et Dieu nous dit, vas-y là. C'est local, vous pensez que moi je suis battu, j'ai tout fait pour ne pas prendre ce local-là, parce qu'il y avait beaucoup de travail, c'était un hangar, etc. Tout fait. Mais Dieu a tout fait pour nous encourager, pour nous donner de l'argent, pour que les hommes viennent ici pour donner leur vie à Jésus. Ceux qui sont faibles, d'être encouragés, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. C'est juste un outil, mais un outil remarquable pour l'œuvre de Dieu. Je voulais rencontrer une fille avec les cheveux noirs. Je visais déjà une avec les cheveux noirs. Et je rencontrais une belle fille blonde. Elle était très belle à l'époque. Bon, elle est encore belle. Hein. Elle va me sortir ça après, donc il faut que je... Franchement, c'est ça. Ah, pour moi, belle fille avec les cheveux noirs. Et puis voilà, Dieu a fait autrement. Il a fait quelque chose dans mon cœur pour une jeune fille blonde. Mais même là, je vois Dieu. Comment il a dirigé notre vie. Alors, mes amis, nous avons les malades parmi nous. Nous avons les gens qui ont besoin d'être libérés. Satan, quand il est venu me rencontrer pour me dire, maintenant, tu ne vas plus prier, c'est fini maintenant. Pour toi, maintenant, c'est fini. Tu vois pas par où tu passes, maintenant, tu vas mourir. C'est fini, tu ne pourras plus prier pour les malades. Alors, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai encore plus envie de prier pour les malades, encore plus. Non ! Au nom de Jésus, tu dégages. Même si j'ai encore quelques bricoles à droite à gauche, quelques faiblesses, mais il y a pire, nous prions. Amen. Nous prions pour la protection les uns sur les autres. Alléluia. Nous allons continuer.